Place à la Formule 1 maintenant et au Grand Prix de Chine, troisième Grand Prix de la saison. Un nouveau gagnant, une nouvelle écurie au sommet, Red Bull et Ricciardo sur la première marche. Jacques Villeneuve est avec nous. Bonsoir Jacques.
Bonsoir.
Dirais-tu que ça a été la course la plus divertissante, que ça a été le meilleur show de F1 des trois courses depuis le début de la saison?
Écoute, elles ont toutes été bonnes, différentes, mais bonnes de toute façon. Il n'y a pas une quantité énorme de dépassements, mais il y a eu beaucoup de rebondissements. Et c'était inattendu. Les résultats étaient un peu inattendus, donc ça qui était intéressant.
Et parlant de résultats inattendus, as-tu vu ça venir une victoire de Red Bull en fin de semaine, toi, Jacques?
Non, parce que ils en manquaient en qualif. Vite en course, on le savait depuis le début, mais à chaque fois, ils en perdaient un peu en qualif, donc ils partaient derrière, et c'est difficile de doubler, donc difficile de remonter, surtout que les Mercedes, les Ferrari, c'est pas non plus des voitures ou des pilotes faciles à doubler, donc c'était un peu surprenant, mais bon, ils ont bien réagi à la voiture de sécurité lorsqu'il y a eu le safety car, mais j'ai l'impression que les voitures qui étaient devant ont pas eu le temps de réagir. La voiture de sécurité a été sortie trop tardivement et ont pas eu le temps de réagir, donc ça c'est pas non plus correct. Normalement, les meneurs de la course devraient être les premiers à choisir s'ils s'arrêtent ou non.
Dirais-tu donc que Red Bull, que Ricciardo a gagné la course à cause précisément de ce moment-là, là, dans l'événement, la sortie de la voiture de sécurité, justement le timing de la sortie, puis ce qu'ils ont pu faire?
Ben, sans la voiture de sécurité, ils ne gagnaient pas la course, ça c'est sûr. Mais après, lui, il a effectué les dépassements qu'il fallait. Il a vraiment piloté en champion. Et c'est un des rares que l'on a vu effectuer des vrais dépassements à l'ancienne, c'est-à-dire il prépare son coup, il décide le virage d'avant, où il va dépasser, comment il va le dépasser, et quand il plonge, et il ne met pas sa roue avant sur la roue arrière, comme on voit un paquet d'autres pilotes faire, comme dans des jeux vidéo, non. S'il double, il se met complètement à côté pour qu'il n'y ait pas justement de doute. Donc, c'était vraiment magnifique ce qu'il a fait.
Toi, Jacques, je sais que tu peux apprécier une course où il n'y a pas de dépassement parce que ça se joue à tellement de niveaux une course de Formule 1, mais il reste que, pour l'amateur, justement, là, après le scénario de la voiture de sécurité, de voir Ricciardo remonter et dépasser quand même pas des deux de pique, là, Hamilton, Vettel et ensuite Bottas, j'avoue, comme spectateur, là, tu te dis, waouh, quelle performance. Maintenant, toi, comme champion du monde, puis comme observateur privilégié, comme performance de pilote, Ricciardo, là, disons, ça fait combien de temps ou combien de courses que tu n'avais pas vu une telle performance?
Non, mais déjà, on va se calmer, c'est que c'est un peu trompeur. Il y a une telle différence entre des gommes neuves et des gommes à peine usées que ça fausse un peu la donne aussi. À l'époque où il y avait des gommes normales, où les pilotes pouvaient attaquer, et les gommes s'usaient, mais il y avait peut-être une seconde de différence. C'était pas aussi énorme que ça. Là, maintenant, on parle entre une gomme neuve et une gomme usée, il y avait 4 secondes de différence. Et les pilotes peuvent même pas attaquer. Ils peuvent attaquer pendant 2 tours et après, ils doivent rouler à 70% de leur capacité. Donc, ça fausse un peu la donne. C'est pour ça qu'ils pouvaient freiner plus tard. Il avait les gommes plus tendres déjà que les pilotes qui étaient devant lui. Et les pilotes devant lui avaient 10 tours déjà sur les gommes, alors que lui, elles étaient neuves. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Et si on regarde son coéquipier Verstappen, lui, par contre, n'a pas réussi à faire les mêmes manœuvres. Il les a mal faites en plus, puisqu'il s'est sorti. Il a sorti Vettel. Il a tenté une manœuvre complètement ridicule à l'extérieur d'Hamilton dans le virage rapide. Pourquoi pas, c'est le fun, nous, à la télé, on rigole, hein. Pour les spectateurs, c'est génial. Mais s'il veut devenir champion, c'est pas la meilleure solution. D'ailleurs, on l'a vu après la course, il était pour la première fois. Il était un peu avec la tête qui pendait et il faisait un peu son mea culpa. Donc ça, c'est la première fois depuis qu'il est en F1.
Une dose d'humilité qui cogne à la porte et il semblait reconnaître effectivement qu'il avait fait des erreurs, n'est-ce pas?
Mais il n'avait pas le choix. Hein. Son coéquipier a gagné la course alors que c'est lui qui devait la gagner. Donc ça pèse lourd dans la balance. Puis là, ça fait 3 courses de suite où il commet erreur après erreur, bêtise après bêtise. Et ça n'a pas l'air de changer. Il en est à sa 4e saison, donc on peut plus dire que c'est un jeune pilote dans l'expérience.
Pourquoi Verstappen devait gagner avant Ricciardo, Jacques?
Ben parce qu'il était devant Ricciardo au moment où il s'est sorti, au moment où il est parti en tête à queue, il était devant Ricciardo. Et avec les mêmes gommes, la même stratégie.
Si Verstappen ne commettait pas d'erreur, t'accordais pas vraiment de chance à Ricciardo de le dépasser, de le doubler?
Non, Ricciardo ne dépassait pas Verstappen. Ils étaient tous les deux en gomme neuve au même moment. Donc, il était impossible pour lui de faire les manœuvres qu'il a effectuées sur les autres pilotes. Tout simplement, ils auraient terminé premier, deuxième.
Maintenant, Que penses-tu de la course des Mercedes? Bottas qui se fait dépasser, notamment, bon, probablement à cause des gommes lui aussi, mais si on regarde ça globalement, pas de victoire encore pour Mercedes.
Non, pas de victoire pour Mercedes. Et même si ça avait été Hamilton dans une grande journée, impossible de tenir tête à des gommes neuves. Donc et en plus le DRS dans la ligne droite. Donc là, de toute façon, il allait se faire doubler. Mais c'est vrai que c'est dur pour Mercedes qui ont été habitués à tout gagner et de temps en temps d'autres voitures, d'autres pilotes venaient les embêter un petit peu. Mais ben là, non, ils sont un peu perdus et on le voit parce qu'Hamilton, dès qu'il essaye d'attaquer en qualif, il commet des erreurs, la voiture devient difficile à piloter. Donc j'ai l'impression qu'ils ont atteint un peu leur limite et il va falloir qu'ils se ressaisissent. Mais c'est une grande équipe, donc ils peuvent réagir très, très vite.
Et ils ne sont pas mal placés quand même. Ils ont ramassé des points ici et là, même s'ils n'ont pas remporté de course. Déjà, Hamilton qui a 45 points au championnat des pilotes, mais avec encore beaucoup, beaucoup de courses à disputer. Donc, est-ce que tu vois les gommes, avec tout ce que tu nous expliques là dans les subtilités, justement, puis de l'adhérence et tout ça, est-ce que les pneus et la réglementation, ça devient une espèce d'élément de nivellement?
Oui, une fois en course, oui, c'est pas ce qu'il y a. Ça peut créer de temps en temps un spectacle, mais c'est un peu un spectacle fictif. Donc les puristes, on n'aime pas ça. Mais j'imagine que le fan qui découvre la Formule 1 aujourd'hui et qui voit que ça part un peu dans tous les sens, peut-être qu'il trouve ça très bien.
Ouais. Du côté de Williams, si on décortique les éléments qu'on peut analyser de la course de Lance Stroll, il a eu un bon départ. En tout cas, si on examine le départ, bien que le résultat soit pas tellement satisfaisant, là, mais est-ce que tu as aimé la manière qu'il a manœuvré dans son départ?
Aucune idée, parce que je l'ai pas vu à la télé, en fait. J'ai juste vu après, deux, trois tours après, qu'il était, oui, 12e après le départ. Donc, mais après ça, j'ai pas vu comment, pourquoi. Donc, il a dû faire un bon premier virage, parce que ça se tasse un peu. Puis après, bon, le rythme de la voiture n'est pas génial.
En effet. Maintenant, est-ce que d'autres éléments qui ont attiré ton attention dans cette course-là en Chine, Jacques, sur lesquels on n'a pas eu l'occasion de commenter encore depuis le début de la conversation?
Non, j'étais vraiment rivé sur ce qui se passait à l'avant de voir que Hamilton, par exemple, à Bahreïn, avait raté sa qualification, mais après, il avait du rythme, il était capable de remonter. Mais là, en course, ça manquait de rythme, et puis on l'a vu quand Ricciardo est arrivé, il s'est même pas battu. Il savait que de toute façon en gomme neuve il pouvait rien faire. Donc on a l'impression que les pilotes maintenant font un peu des comptes d'apothicaire et réfléchissent purement où ils vont terminer dans ce Grand Prix et ne se bloquent pas les uns les autres parce que les gommes tiennent pas. En tout cas, les pilotes qui se battent pour le championnat, les pilotes qui ont de l'envergure comme des Hamilton, des Vettel, Raikkonen.
Ça s'annonçait comme un bon week-end pour Ferrari quand même. Ils étaient au départ, évidemment, ils étaient en avant. Le départ a été réussi. Bon, Vettel impliqué dans un accrochage, mais quel bilan fais-tu du week-end Ferrari, Jacques?
Ben, côté résultat moyen, déjà Vettel d'avoir tassé Raikkonen, bon, c'était un peu agressif sur son coéquipier, mais pourquoi pas. Mais en même temps, à cause de ça, Raikkonen s'est retrouvé quatrième au lieu de se retrouver deuxième. Et ça n'a pas protégé Vettel après pendant les arrêts au puits. Et c'est pour ça qu'ensuite, il s'est fait dépasser par Bottas. Alors que si Raikkonen avait été deuxième au premier virage, il n'aurait pas pu jouer avec les stratégies de la sorte. Donc, son agressivité comme ça au départ a peut-être un peu nui, mais en bout de ligne, de toute façon, il s'est fait sortir par Verstappen, donc ça n'aurait pas changé grand-chose. Raikkonen est vraiment compétitif cette année, hein. Il est là tout le temps, tous les week-ends. Mais le 1/10 manqué en qualification, qui fait partir deuxième au lieu de premier, a un effet énorme sur la course.
Oui, en effet. Est-ce que ce type d'incident de course ou d'événement de course entre coéquipiers amène des réflexions? Tu sais, je sais, Jacques, que tu nous dis, on a été très attentifs quand tu l'as dit, c'est sûr que ton but, c'est d'être meilleur que ton coéquipier. Mais quand tu parles de stratégie d'équipe, est-ce qu'à un moment donné, on a beau vouloir encourager une saine compétition entre les deux, où il y a des fois où il faut y avoir une espèce de coordination, une espèce de synchronicité dans la stratégie?
Ben, c'est difficile parce que Raikkonen est tout de même le dernier champion Ferrari. Vettel est un multiple champion, donc difficile de commencer à donner des ordres à l'un et à l'autre, surtout que Kimi, cette année, il sent qu'il peut le gagner le championnat. Mm-hmm. Il est là. Donc l'approche n'est pas tout à fait la même. Donc j'ai l'impression que la superbe, géniale entente qu'ils ont, peut-être, ne sera pas géniale tout au long de la saison.
Est-ce qu'il y a moyen d'être vraiment, au-delà du fait de vouloir écraser ton équipier là pour montrer que tu es vraiment plus rapide, est-ce qu'il y a moyen, une fois qu'on sort de la monoplace, d'avoir une relation qui est saine pour l'équipe où il y a toujours une espèce de tension entre deux pilotes?
Non, en dehors de la voiture, ça peut être très sain. En fait, ça dépend s'il n'y a pas de cochonnerie qui se passe sur la piste. Si un pilote commence à être mal propre sur la piste et faire des coups de chien, des coups de roue, là, après, ça peut déborder en dehors de la voiture. Mais tant que ça reste respectueux sur la piste, aucune raison que ça déborde ensuite dans le paddock.
Quelle est la meilleure relation que tu as eue, toi, avec un équipier, Jacques?
Généralement, ça a été pas mal. Damon Hill, j'ai beaucoup appris de lui. Mais avec qui j'étais assez proche, Olivier Panis, ça s'est très bien passé, et Felipe Massa aussi.
Ah oui, c'est vrai, ça me rappelle, Olivier Panis, j'avais oublié qu'il avait travaillé avec toi également. Alors, un petit week-end de congé, puis ensuite, c'est le Grand Prix d'Azerbaïdjan, Jacques.
Le Grand Prix d'Azerbaïdjan, qui est un circuit, on s'en souvient l'année passée, il y a eu que des bouleversements, des coups de roue, il y a tout eu. Je pense qu'il y avait 18 pilotes qui pouvaient prétendre à gagner cette course avec tout ce qui était arrivé. Et puis, ça a été le meilleur week-end de Lance aussi. Donc, je pense qu'il va arriver là très positif. Il faut espérer que ça va l'aider.
Ben, ça promet. On a hâte de voir ça. Entre-temps, ben, bon repos, mon cher, et à bientôt.
À très bientôt.
Merci beaucoup. C'était Jacques Villeneuve, champion du monde de Formule 1 et collaborateur aux amateurs de sport. Dans quelques instants, après les nouvelles au réseau Cogeco, on s'entretient avec Vincent Destouches. Retour sur le match de l'Impact en fin de semaine et un nouveau nom pour le stade Uniprix, notre stade de tennis à Montréal. À tout de suite.